Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Comme chaque jour, vous le savez, j'ai une heure pour vous montrer qu'il y a chez nous des hommes et des femmes qui imaginent, qui créent et qui inventent aussi la société de demain. La période estivale est propice aux travaux et si vous envisagez de repeindre votre salon, eh bien vous allez voir que des Français ont inventé les produits nouvelle génération. Elle est toute jeune, elle est implantée dans la Drôme et elle a su révolutionner le monde de la mode avec ses mannequins robots. EVK est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, vous avez sûrement un réseau professionnel, vous pouvez dès aujourd'hui le faire partager à des personnes qui sont en situation précaire. C'est l'appli LinkedOut qui vous le permet et c'est la solution, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, Ambline, vous connaissez évidemment le numéro. Venez nous dire si vous aussi, vous profitez des vacances pour refaire votre intérieur.
Oui, comment allier décoration et protection de l'environnement, c'est peut-être votre choix. À la maison aussi, vous n'hésitez pas à témoigner, à nous raconter comment ça se passe. 3921, 50 centimes la minute, c'est le standard d'Europe 1 pour poser vos questions à tous nos invités. Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et effectivement, vous allez voir avec nous aujourd'hui qu'il est possible d'investir dans de nouveaux matériaux, que ce soit les papiers peints d'ailleurs ou les peintures nouvelle génération. Nos invités les ont créés. Pour les accueillir à mes côtés comme chaque jour, elle est là, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach, c'est Frédéric Mazella aujourd'hui, fondateur de Blablacar. Bonjour Frédéric.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Quand on nous prend l'envie de repeindre la cuisine, le salon, on a généralement une idée très précise de la couleur. C'est une fois arrivé devant les pots de peinture qui s'offrent à nous que c'est un peu plus compliqué de faire un choix. Et si vous pouviez aujourd'hui acheter une peinture éco-responsable ? Bonjour Maria Merito.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Vous êtes l'une des fondatrices de Circouleur. Alors c'est une aventure qui a débuté il y a 4 ans maintenant, du côté de Bordeaux. Avec votre associée Maëlys, vous aviez envie de faire des travaux, enfin elle avait envie, et il lui restait tout un tas de fonds de peau. C'est comme ça que naît l'idée de Circouleur.
Exactement, Maëlys a eu cette idée après des travaux chez elle, donc comme on fait tous, on se retrouve tous finalement à la fin avec un fond de peau de peinture dont on ne sait pas quoi faire. Et du coup, Maëlys a creusé un petit peu le sujet et elle s'est rendue compte qu'une fois déposé en déchetterie, ces fins de peau de peinture n'avaient pas forcément une issue très positive puisqu'ils partaient à l'incinération. Et donc à partir de là, étant chimiste de formation, elle s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ces peintures acryliques. Et donc de là est venue l'idée en tout cas de les recycler et de faire de la revalorisation matière au lieu de l'incinération.
Oui, parce qu'il se trouve qu'on sait recycler les peintures acryliques.
Exactement. En tout cas, c'est un procédé qui existe depuis 20 ans au Québec et qui n'était pas arrivé jusqu'à nous. Et donc, c'est Maëlys qui a lancé cette initiative en France, qui est aujourd'hui bien développée.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait à l'époque ? Elle fait des tests avant de se lancer ? Comment ça se passe ?
Tout à fait. Elle a fait des tests de son côté. Après, on allait en déchetterie. On avait un de nos partenaires qui nous a donné accès à des déchetteries pour aller voir un petit peu la matière qui était déposée par chacun d'entre nous. Et du coup, en laboratoire, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait. Et Maëlys s'est rendue compte qu'effectivement, on peut mélanger des peintures acryliques entre elles et qu'on peut surtout la reformuler pour réussir à redonner une vie à ces peintures-là.
Vous avez dû mettre en place toute la filière. Vous récupérez les fonds auprès du grand public, auprès des professionnels. Est-ce que nous étions préparés à ça ?
Alors aujourd'hui, il y avait déjà une collecte des peintures qui existait. Donc on s'est associé avec quelqu'un qui organise déjà cette collecte et qui avait déjà ces peintures qui arrivaient dans la filière. Donc ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on a dû trier ces peintures parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elles étaient toutes mélangées entre les peintures glycéro, les enduits, les colles, les peintures acryliques. Donc ce qu'on s'est dit déjà, c'est qu'il fallait qu'on arrive à trier ces peintures et à ne garder que les peintures acryliques. Et c'est ce que nous a aidé à faire notre partenaire basé en région bordelaise.
Vous récupérez aussi tout ce qui est finalement à base d'eau, parce que c'est ce qu'on a peut-être pas expliqué, hein, c'est que l'acrylique, bon, voilà, il y a de l'eau à l'intérieur.
Exactement.
Même chose pour la colle, par exemple ?
Alors non, on ne récupère pas les colles, on récupère vraiment que les peintures qui sont à base d'eau, qui sont aujourd'hui la majorité des peintures qui arrivent dans les déchetteries.
Et vous triez par couleur ?
Exactement.
D'abord par
Alors,
couleur.
On trie déjà pour ne récupérer que l'acrylique et ensuite on va faire une répartition par typologie de couleur pour ensuite être en mesure de refaire notre propre nuancier de couleur parce que finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le plus important, ça reste la couleur quand on veut faire de la déco chez soi. Donc il faut qu'on arrive à avoir un nuancier qui colle avec les tendances et avec les envies des consommateurs.
Alors il est là, ce nuancier. Ce sont des couleurs qui sont des couleurs après mélange ou vous décidez en fonction de ce que vous récupérez ?
Alors c'est pas décidé en fonction de ce qu'on récupère. On travaille vraiment le nuancier en fonction des besoins et des tendances du moment. Et après, effectivement, on arrive à reproduire notre nuancier en faisant des mélanges de couleurs et en essayant de ne pas utiliser de pigments neufs.
Que dit notre coach Frédéric Mazella?
Alors, c'est très bien, c'est recyclé, mais j'ai une question moi, par rapport aux composants organiques volatiles, les COV, parce que à ma connaissance, c'est pas forcément les peintures justement acryliques qui n'ont pas de COV. En fait, c'est assez compliqué. Est-ce que vous avez un moyen, tant que vous y êtes, à être vertueux dans toutes les dimensions, de retirer les composants, je sais pas, je connais pas le sujet, hein, mais de retirer les composants organiques volatiles qui sont dans les peintures et qui sont en fait mauvais à respirer pour nous, puisque ce que j'ai entendu, c'est que l'air intérieur des maisons est 6 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur, et que c'est en grande partie à cause des peintures que l'on respire. Alors d'ailleurs, quand ça sent la peinture, ça veut bien dire quelque chose. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de diminuer cette proportion de COV, comme on dit
Alors effectivement, c'est une très bonne remarque, parce que l'air intérieur est extrêmement pollué. Et l'avantage, c'est que les COV, comme leur nom l'indique, ce sont des composés organiques volatiles. Et comme nous, on récupère des pots qui ont déjà été ouverts, ces COV se sont déjà volatilisés. Donc un des très gros avantages de l'utilisation d'une peinture recyclée, c'est qu'on est sur des taux de COV qui sont extrêmement bas et parmi les plus bas aujourd'hui sur le marché. Donc en plus, on gaspillait aujourd'hui des peintures qui étaient déjà meilleures pour la qualité de l'air intérieur.
Est-ce que ça veut dire que si on ouvre un pot de peinture avant de peindre,
On a des chances que ça s'évapore.
Mais il faut le laisser quand même ouvert très longtemps et surtout pas à proximité de vous. Je pense que c'est quand même pas la solution la plus idéale. Le mieux, c'est de faire attention aux peintures qu'on achète, de regarder déjà la classification. Au sein des classifications, nous, on est classé à plus, mais on est au plus bas de la classification. Donc même dans la classification à plus, il faut aussi se renseigner sur la teneur en COV des peintures.
Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez demain totalement faire disparaître?
Alors, faire disparaître, on est déjà tellement bas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas pour objectif de les faire totalement disparaître, mais en tout cas, comme on est en recherche et développement constante, c'est des choses sur lesquelles on va continuer à travailler et pourquoi pas aussi envisager peut-être une dépollution de l'air. Enfin, c'est des choses qui pourraient venir sur du plus long terme.
Elisabeth, vous avez trouvé des innovations aussi dans les peintures, hein,
oui, il y en a.
Avec une start-up, je crois.
Oui, une start-up dans la région toulousaine qui s'appelle Colibri, qui elle a mis au point une peinture dépolluante. Les fondateurs se sont associés, comme vous, hein, avec des chimistes, avec des chercheurs. Eux, la peinture est biosourcée, elle est fabriquée en France, elle reprend les normes des peintures qui existent déjà, notamment en termes d'efficacité, en termes de résistance aussi dans le temps, parce que j'avais une question pour vous, est-ce que ces peintures sont-elles résistantes et efficaces dans le temps ?
Tout à fait. Ça, c'est vraiment le cœur de métier de Circouleur et c'est vraiment ce que font les équipes côté R&D au quotidien. C'est la reformulation de nos peintures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en pot des peintures sans les avoir retravaillées. Et ça, c'est vraiment notre expertise. Donc, on va rajouter quand même quelques composants neufs pour revenir à une qualité de peinture haut de gamme et pour vous garantir que dans le temps, ça va durer et que vous allez avoir un rendu qui soit impeccable après sur vos murs. Et ça, c'est vraiment la clé de tout. En tout cas, dans le recyclage, on ne peut pas se permettre d'avoir des produits qui soient de moins bonne qualité.
On reste ensemble et on continue à repeindre la maison aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si la peinture pouvait nous donner de la chaleur l'hiver? Eh bien, vous allez voir que oui, c'est possible grâce à France Innov. À tout de suite.
Vous écoutez Raphaël Duchemin sur Europe 1 et on se demande comment innover pour notre déco à la maison avec des nouveaux papiers peints et des peintures éco-responsables dans la France bouge.
Ah oui, c'est vrai qu'il se passe, vous allez voir beaucoup de choses hein, dans la tête des ingénieurs et parfois une rencontre suffit pour que des connexions s'établissent et qu'un projet naisse. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs pour France Innov. Bonjour Jean-François Paredes.
Bonjour Raphaël Duchemin, merci pour votre invitation.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur technique de France Innov, créé en 2016. Nos deux ingénieurs, c'est vos deux collègues hein, finalement. Et aujourd'hui, c'est dans leur tête qu'est né ce produit. 3 ans de recherche, de travaux pour aller, si je schématise, intégrer une batterie thermique dans la peinture.
Voilà. Alors, la société est un peu plus jeune que ça, puisque c'est en 2017, début 2017, qu'elle a été créée.
Mais l'idée, c'est 2016.
L'idée est 2016, voilà. Mais bah, ça ne s'est pas fait en un jour.
Ah ben non, hein.
Voilà. Donc, effectivement, c'est la rencontre de deux jeunes ingénieurs, dont un qui avait été recruté par Loïc Barbeau, qui est notre ingénieur-chercheur chimiste et aussi le responsable de l'entreprise. Qui se sont rencontrés, ces deux jeunes, parce qu'ils troquaient entre midi et deux la blouse blanche contre le short et les chaussures de sécurité contre les baskets et couraient ensemble dans la zone industrielle.
Ouais.
Voilà. Ça a permis de mettre deux chefs d'entreprise en relation. Et un a dit à l'autre, ah, je t'avertis tout de suite, mais les matériaux à changement de phase, dans la peinture, ça n'existe pas et c'est pas possible.
Ah, défi. Enfin,
voilà. Et il faut jamais dire ça à Loïc Barbeau.
Bon.
Voilà.
Bah écoutez, si à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, il invente un produit, c'est plutôt bien, non ?
Voilà. Au bout de 3 ans, 4 ans de souffrance, effectivement, on a réussi à mettre au point un revêtement très spécifique. En fait, on a créé une batterie thermique. En se basant sur le biomimétisme, c'est-à-dire on a observé les animaux à sang froid.
La nature, oui.
Voilà, hein, les animaux à sang froid se mettent au soleil l'été, ou quand il y a un peu de soleil.
Ils emmagasinent la chaleur.
Ils emmagasinent la chaleur, ça leur permet de pouvoir avoir une mémoire thermique pour survivre l'hiver. On ne peut pas en faire autant avec notre ADN, donc on s'est dit pourquoi pas changer notre intérieur, notre environnement, c'est ce que l'on a fait.
Alors attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on a mis une batterie à l'intérieur de la peinture. Oui. Forcément, tout le monde a l'image de la batterie comme la batterie de voiture. Oui. Comment on fait pour que ce soit miniature, que ça soit invisible et que ça soit à l'intérieur de la peinture ?
Alors, comme exemple, je peux donner l'exemple des chaufferettes que beaucoup connaissent. Que vous trempez dans l'eau chaude, on va récupérer la chaleur, ça devient liquide et froid. Et lorsque vous allez en avoir besoin, vous clipsez et ça va devenir, vous allez relarguer les calories. Le souci de ces chaufferettes, entre parenthèses, c'est qu'elles sont chimiques. Et là, ça va à l'encontre de nos objectifs. Donc, on a des matériaux au changement de phase, ça s'appelle 100% naturel.
Comme par exemple, quel type de matériaux, quel genre de matériaux ?
Ça s'appelle des matériaux au changement de phase, la matière qu'il y a dedans. Mm-hmm. Hein, donc ça, c'est 100% naturel, c'est végétal, c'est à base de cire et de fibres, voilà, végétal. Ce sont des brevets déposés, donc je ne vais pas vous en dire trop.
Ah, c'est secret, c'est secret.
Voilà. Et après, la seconde difficulté, c'était quand on est en phase liquide de charge, si vous mettez ça dans un revêtement, automatiquement, ça va migrer. Donc on a réussi à mettre au point un procédé qui micronise ces MCP et les encapsuler. En fait, on a créé des chaufferettes à l'échelle du micron. Et lorsque vous mettez ça sur vos murs, par exemple, au plafond, vous créez une véritable batterie thermique sur vos supports.
Ça veut dire, si je schématise toujours, que ce qui se passe dans la peinture, c'est qu'elle est un peu vivante, quoi. Elle change de structure en fonction de la température.
En fonction des plages de température. Alors, des plages de confort. C'est-à-dire qu'en fonction des régions dans lesquelles on est, on a des plages de température différentes. Si on prend, par exemple, là, dans l'ouest, c'est 21-19 degrés, en gros. Au-dessus de 21 degrés, quelle que soit la source de chaleur, on va emmagasiner la peinture. Même principe qu'un réfrigérateur.
Oui. Hein,
qui va emmagasiner, sauf que le réfrigérateur, lui, va vous relarguer les calories derrière où il fait très chaud. Nous, on va garder une mémoire calorique. Et on ne va pas la relarguer avant d'arriver à vos 19 degrés. Et on va remplacer le chauffage. À ce moment-là, on va pouvoir relarguer ce qu'on a emmagasiné avant.
Alors, vous me voyez venir. Comment on sait que c'est le bon moment pour redonner la chaleur, pour rendre la chaleur ?
Vous ne le savez pas, mais notre peinture le sait.
La peinture le sait, ouais. Elle est programmée.
Elle est programmée en fonction des taux de température.
Notre coach, Frédéric Mazella.
Ouais, je trouve ça dingue. Je ne sais pas quel impact ça a véritablement. Est-ce que c'est massif, hein, c'est-à-dire, par exemple, pendant la canicule, est-ce que ça aurait pu éviter que l'intérieur des maisons monte trop est-ce que...
Alors, les essais, lorsqu'on l'a commercialisé, donc on est les essais ont été contrôlés par le CSTB, hein, l'ADEME, on a eu plusieurs prix. Et. Pour exemple, en 2016, les essais ont été faits sur 2 appartements à Vannes, dans le Morbihan. Et je vous dis qu'en Bretagne, il y fait chaud des fois. Pendant la canicule, malgré 8-10 jours de très forte chaleur, au moment du pic de canicule, il y avait 4 degrés d'écart entre les 2 appartements. Celui qui était fait avec, incroyable, et celui qui n'était pas fait avec. Ça, c'est les chiffres certifiés CSTB. Si on prend
c'était
la période,
il n'y avait pas une maison bretonne avec 3 mètres de mur.
CSTB, exactement. On se comprenne bien, c'est l'organisme de contrôle. Hein,
voilà.
C'est
exactement les mêmes appartements. C'est pour ça qu'on les avait choisis parce qu'ils sont la même surface, habités par une personne, même orientation, même fenêtre. Ils étaient parfaitement identiques. Si on prend ça sur la période hivernale, le taux de déclenchement de chauffage la nuit, parce que c'est là qu'on était sûr qu'il y avait quelqu'un, sur l'appartement témoin, le taux de chauffage. Et le déclenchement de chauffage était de 4 à 6 fois par nuit, l'appartement avec notre revêtement de 0 à 1 fois. Parce qu'on allait réceptionner, on allait relarguer, si vous voulez, toutes les calories emmagasinées dans la journée. Que ce soit des calories humaines, ce soit, je vous parlais tout à l'heure du réfrigérateur, mais la télévision, les ordinateurs, le petit rayon de soleil qui va passer par la fenêtre l'hiver. Plutôt qu'on monte en température, on va emmagasiner ces calories et on va pouvoir les restituer au moment opportun.
Bon, c'est un produit totalement révolutionnaire.
Oui, qui nous donne, entre, si on prend les chiffres sur les tests, c'est entre 10 et 15% d'économie d'énergie, ce qui est important. C'est là, pour ça qu'on a eu, bah, avec ce produit, on a eu notamment la médaille d'argent mondiale de l'innovation du bâtiment. Mm-hmm. On a eu la premier prix d'efficacité énergétique par l'EPEX et l'ADEME, et puis quelques autres prix aussi, hein. Bien sûr, on ne s'est pas arrêté là, voilà.
Vous avez aussi une version thermique et dépolluante, c'est-à-dire elle emprisonne, et ça va intéresser Frédéric, les polluants, et elle assainit l'air des pièces.
Alors ça, c'est encore une histoire d'une rencontre. C'est quand on était avec, on s'attache des partenaires distributeurs, on ne distribuait pas nous-mêmes, et un jour, on a quelqu'un qui est venu nous voir, un directeur des peintures, en nous disant, vous avez deux produits qui nous intéressent. Et ouais, mais bon, Bioactif, qui est notre peinture thermique, et on a un dépolluant, qui était un petit peu plus extraordinaire. Je n'ai pas compris au début, parce que lui en avait aussi. Il dit, oui, mais vous... Et c'est vrai qu'on est certifié à une validité de 10 ans à 85% du volume de la pièce, ce qui est énorme. Et on a réussi, à sa demande, au bout de 3-4 mois, à mettre au point une formule qui fait les deux, qui est à la fois dépolluante pendant plus de 10 ans et thermique.
Justement, comme tout à l'heure, on a parlé effectivement des classifications. Je voudrais qu'on explique, hein,
oui,
Elisabeth.
Parce que les peintures sont, depuis 2012, c'est obligatoire. Elles doivent être munies d'une étiquette qui indique le niveau d'émission en polluants volatiles. Donc, les étiquettes vont de A à C, A+, BB+, C. Le A+, il est vert foncé. C'est un produit qui émet ou pas du tout de COV, et ça va jusqu'à l'étiquette rouge, hein, qui correspond au C, et là, ça en produit beaucoup.
On reste ensemble et on continue à redécorer nos intérieurs aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous avez peut-être envie d'accrocher des photos au mur sans avoir à faire des trous. Eh bien, vous allez voir que des Français ont inventé le papier peint magnétique. À tout de suite.
Révolution écolo dans la maison, papier peint et peinture éco-responsable dans la France bouge. On est avec vous, Raphaël Duchemin.
Et on a tous, hein, quand on est jeune, des chambres d'ado avec des photos, des tickets de concert au mur. Ça vous rappelle peut-être quelque chose qu'on punaise ou qu'on colle à coups de pâte à fixe. Mais il existe désormais une autre solution qui a l'avantage de ne pas faire de trous dans les murs. Bonjour Martin Taillard.
Bonjour Raphaël, bonjour
merci,
à tous.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Magnette Déco et c'est vous qui avez lancé la marque Fairflex. Alors cette entreprise, au départ, c'est celle de votre père. Et quand vous êtes allé travailler avec lui, vous vous êtes rendu compte que les gens utilisaient de la peinture magnétique, venaient vous acheter des aimants, mais ils revenaient et ils vous disaient « ça tient pas bien ».
Oui, exactement. Ils nous revenaient, nous disaient « nos aimants tombent,
oui.
C'est dû à vos aimants
».
Et nous, on a cherché un petit peu, on était persuadés de la qualité de nos produits et on s'est aperçu qu'en fait, la peinture magnétique est chargée en particules magnétiques, mais une peinture étant liquide, les particules étant solides, si on met une concentration trop importante, ça devient une pâte et difficile à appliquer.
Donc en peinture, ça ne fonctionnait pas. Vous vous dites, il faut créer un autre produit.
Alors en peinture, ça fonctionne, mais il va falloir passer 3 à 5 couches pour avoir un résultat probant. Et
les
avoir
gens
des
n'en
aimants,
passent qu'une ou deux maximum.
Donc nous, on est parti de ce constat-là et on a créé un produit qui s'appelle Fairflex,
qui est un
revêtement mural magnétique.
Alors ça fonctionne comme un papier peint.
Tout à fait.
C'est-à-dire que On le pose, on le colle sur le mur.
Voilà, alors la spécificité, c'est qu'il est autocollant. Donc on enlève le protecteur de l'adhésif,
oui.
On le colle directement, et après on affiche avec des aimants ou les photos. On peut afficher également des cadres, si on met des aimants derrière. Voilà, et pouvoir moduler en fait sa décoration au gré de nos envies, sans avoir à faire de trous dans nos murs.
La différence, c'est qu'entre la peinture et le papier peint, c'est plus chargé...
En particules de fer.
En particules
voilà.
De fer,
et
c'est
beaucoup
ce qui
plus
permet...
homogène.
Une meilleure
adhésion des aimants, tout à fait.
Comment est-ce que vous avez commencé à élaborer ce projet? Ça a pris du temps de le concevoir?
Alors moi, je suis entré dans l'entreprise de mon papa en 2011. Je l'ai racheté en 2013, donc c'est la date de naissance un peu du produit.
Oui, vous êtes une petite structure. Hein.
Oui, tout à fait, on est 6. Et la marque est née il y a 2 ans, donc il a fallu se persuader que le produit était viable, mettre au point... le système de fabrication, réfléchir à un kit pour que les clients puissent directement, en recevant le produit, le poser chez eux et directement l'utiliser.
Et si vous nous suivez sur europe1.fr, vous le voyez, hein, justement, ce produit de Fairflex. Vous aviez participé aussi à une émission télé.
Oui, on a participé.
Qui vous a poussé hein, un petit peu
ouais,
aussi à améliorer les choses.
On a participé à l'émission de...
À votre invention Vaudelor.
Mon invention Vaudelor, tout à fait. D'ailleurs, la finale est demain à 21h. Ils nous ont poussé sur notre produit, mais ils ont souhaité qu'on aille plus loin. Ils ont souhaité qu'on vienne pouvoir, qu'on puisse aimanter un papier peint et pouvoir le retirer au gré de nos envies.
Et donc, ça, vous avez réussi à relever le défi ?
Alors, aujourd'hui, on sait le faire. Maintenant, les papiers peints, il en existe une variété très large. Et pour pouvoir satisfaire l'ensemble des besoins et des envies des Français, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur des partenaires qui sont spécialisés dans les papiers peints pour pouvoir vraiment investir ce marché.
On le voit, Elisabeth, hein, le secteur du papier peint, ça s'est vraiment dépoussiéré. Mais
complètement. C'est simple, dans les années 70, il se vendait en France près de 100 millions de rouleaux de papier peint par an. Et puis, petit à petit, ça a diminué. Et il y a même des grosses entreprises à l'époque qui ont fermé parce que le papier peint a souffert d'une espèce d'image très, très ringarde. Et en 2015, le papier peint renaît. Hein, le marché du papier peint redevient beaucoup plus important. En 2016, pour vous donner une idée, on estime à 28 millions le nombre de rouleaux vendus. Donc ça recommence à reprendre. Les papiers imitation en matière ont de plus en plus la cote. Les papiers peints graphiques aussi sont très populaires dans les années 90. Ils refont surface. Et là, aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver une chambre avec quelques papiers peints que l'on peut mettre et ensuite retirer pour en mettre un autre parce que les prix sont aussi devenus beaucoup plus accessibles.
Et vous avez trouvé un fabricant de papier peint en France qui produit dans la Somme, c'est le dernier ?
Tout à fait, c'est l'un des derniers. Il a été labellisé entreprise du patrimoine vivant. Il existe depuis 1974. C'est le dernier fabricant de papier peint en France. Ça s'appelle la UGPA, la société s'appelle UGPA, UG et accent aigu PA. Elle est basée à Amiens.
Le coach Frédéric Mazella.
Alors, très bien, je trouve que ça innove, mais est-ce que, quelle est la quantité de fer qu'il faut au mètre carré
Nous, on est sur 83% de fer au centimètre carré. Notre produit,
83,
en fait,
c'est quasiment que du fer, en fait.
Ouais, et un liant élastomère, un liant en caoutchouc.
On va vous le faire passer, hein, d'ailleurs, pour que vous voyez. Voilà.
D'accord, et alors ça tient bien, ça ne se décroche pas quand c'est collé alors, parce que justement, c'est très épais.
Ça fait un demi-millimètre d'épaisseur, donc avec un adhésif au dos.
Enlever l'adhésif et...
Voilà, vous enlevez l'adhésif, vous le collez. Donc après, au niveau de l'adhésif, il n'y a aucune crainte. Une fois que le plus important est que le mur soit lisse, étant donné que le produit est fin et l'adhésif est fin, si vous avez des aspérités, ça peut être contraignant. Mais dès lors que vous avez un mur lisse, vous le collez très facilement et tous les aimants adhèrent.
Et alors, est-ce que si on faisait une peinture avec 83% de fer, je ne sais pas si c'est faisable.
Le problème,
ça donnerait le même effet.
Je pense, mais le problème, c'est que le fer étant solide, dans une peinture qui doit être liquide, vous allez avoir une difficulté pour appliquer cette peinture sur le mur.
Je vous propose qu'on poursuive ce débat dans quelques instants, toujours sur Europe 1. On est toujours en train de repeindre la maison.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, merci. Vos questions à nos invités 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Venez, c'est la France qui bouge. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Raphaël Duchemin sur Europe 1, papier peint et peinture tendance et écolo aujourd'hui. Vos idées également, vos expériences déco éco-responsables au standard d'Europe 1, vous n'hésitez pas, on vous écoute au 3921 et puis vous pouvez poser vos questions aux invités de La France Bouge sur Twitter, hashtag Europe 1.
Eh oui, on repeint aux couleurs du Made in France aujourd'hui avec Marianne Rito, cofondatrice de Cire Couleur, la peinture recyclée, Jean-François Paradès, directeur technique de France Innov, peinture thermorégulante et Martin Teillard, cofondateur de Fairflex, le papier peint magnétique. Nous sommes toujours avec Elisabeth Saïk, bien sûr, et notre coach aujourd'hui qui est en plein test de couleur,
il choisit
la couleur pour repeindre chez lui, c'est Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Je crois qu'on avait, entamé un débat hein, juste avant la pause, je voudrais qu'on le poursuive justement sur ce papier peint magnétique. Vous étiez en train de nous dire, Frédéric, que vous auriez aimé que les choses soient un peu différentes, qu'on puisse faire de la peinture de la même manière, mais manifestement c'est pas possible parce qu'il y a trop de fer.
Oui, il y a trop de fer. J'avais aussi une question par rapport au fait que justement parce qu'il y a du fer, je me demandais si au niveau de la santé, vivre au milieu d'un aimant, c'est bien ou c'est pas bien. Alors
notre vêtement, lui, il est constitué en particules de fer, donc le fer est une matière inerte qui ne provoque aucun méfait sur la santé. Et après, les aimants sont des aimants avec un faible champ magnétique, donc ne provoquent rien au niveau de la santé. D'ailleurs, certains de nos clients nous appellent chez Magnet Déco parce qu'ils ils sont sensibles à la magnétothérapie, qui est une technique de se soigner avec des aimants.
Elisabeth,
vos clients, ce sont surtout des entreprises, que j'imagine davantage ce papier peint dans une salle de réunion plutôt que dans un salon, mais peut-être
Alors, pour les chambres des ados, ça marche bien aussi.
Voilà, tout à fait. Mais ça peut marcher dans la maison, donc dans une cuisine pour aimanter des photos, la liste des courses, ce genre de choses. Dans un bureau également, dans une chambre d'enfant, plus besoin de mettre la pâte à fixe, les épingles pour
donc
faire
partout,
des trous partout dans
c'est
le
pour
mur.
Toute la maison.
Mais effectivement, chez le professionnel, dans une salle de réunion, le bureau d'une entreprise, ça permet de créer des espaces d'affichage qui font souvent défaut aujourd'hui. D'autant qu'on peut amener par-dessus notre papier peint des ardoises aimantées qui vont venir s'aimanter sur Fairflex et sur lesquelles on va pouvoir écrire au feutre effaçable à sec ou ce genre de choses. Donc,
On n'a pas parlé prix. Je vous en avais vendu pas mal, hein, je crois 10 000
ouais,
unités vendues, c'est ça. C'est quelque chose qui est relativement cher par rapport à la peinture, notamment.
Alors là, je vais vous parler pour les particuliers. On est autour de 25-30 euros le mètre carré. Mm-hmm. Sachant que nous, on propose le produit sous forme de kit. C'est-à-dire que le client reçoit son rouleau de papier peint. Par exemple, le kit 1 mètre, qui est à 35 euros. Il reçoit son rouleau de 60 cm par 1 mètre, 8 petits aimants, et un rouleau de scotch aimanté qui permet d'accrocher les photos directement sur son support.
Jean-François Pardès, même question. Quand il y a une technologie à l'intérieur de la peinture, forcément, ça fait grimper le prix?
Oui. Alors, oui et non. Alors, oui, dans un premier temps, c'est grosso modo ce que l'on voit sur les chantiers. On prend beaucoup sur des grands comptes, hein, mm-hmm. voilà, des managers de la construction, pour les hôpitaux, les municipales. Mais chez le particulier, on va arriver à peu près à 40% par rapport à une peinture, mais 40% sur la matière, la main-d'œuvre étant la même. Donc, c'est du 20-80, donc on
en
est
revanche,
à 40%.
En revanche, derrière, il y a des économies d'énergie qui sont réalisées.
On a entre 10 et 15% d'économies d'énergie derrière. Et puis, on a surtout un confort énorme qui est immédiat.
Même question pour vous, Marianne. La peinture cire-couleur, on n'a pas précisé, mais même le pot hein, dans lequel est mise la peinture est recyclé.
Même le pot est issu du recyclage. Et nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et c'était important pour nous que le prix ne soit pas un frein à l'achat, parce que souvent, les produits écologiques sont plus chers et c'est forcément le premier frein. Donc, nos produits sont à qualité haut de gamme équivalente, un petit peu moins chers que les produits de la concurrence, justement, pour inciter aussi à avoir un geste écologique.
Frédéric ?
Sur la durée, justement, de ces produits, quel est le recul qu'on peut avoir? Est-ce qu'ils sont qualité, ils vont durer aussi longtemps? Enfin, par exemple, pour les peintures recyclées, on peut se dire que comme elles ont passé pas mal de temps avant, justement, dans des pots de peinture, avant d'arriver chez vous et d'être recyclées, est-ce qu'elles durent quand même aussi longtemps que les autres?
Elles sont retravaillées, hein,
Elles sont reformulées, tout à fait. Donc, de toute façon, on garantit la longévité comme sur une peinture classique. Après, aujourd'hui, nous, on fait des tests en laboratoire qui nous permettent aussi d'anticiper le vieillissement de la peinture et de regarder justement comment elle va évoluer. Et aujourd'hui, on a déjà des chantiers sur lesquels la peinture est appliquée depuis plus d'un an, et notamment dans des écoles où forcément, les élèves ont tendance à beaucoup gribouiller sur les murs. Donc, il y a toute cette... les peintures sont lessivées et les retours qu'on a sont extrêmement bons justement parce qu'elle vit bien et elle est facilement nettoyable. Donc c'est un vrai plus aussi là-dessus. Et vraiment la reformulation, c'est ça qui nous permet de dire qu'après, une fois que vous l'appliquez, vous ne voyez vraiment pas la différence entre une peinture recyclée et une peinture qui ne l'est pas.
Jean-François Paredes, pour ce qui concerne les peintures de Francinov, vous en êtes déjà à l'étape d'après, vous avez de nouveaux projets?
Oui. Comme je vous disais tout à l'heure en antenne, puisque maintenant on a aussi la version bactéricide.
Oui.
Voilà. Au niveau de la durée dans le temps, bien sûr, on est lessivable, on est teintable, mais on est aussi recouvrable sans perte d'efficacité au niveau du thermique.
C'est-à-dire que je peux venir mettre le papier peint
à partir du moment où on va mettre un revêtement qui emmagasine de l'air, c'est-à-dire que si on met un enduit, si on met un papier peint gaufré, on aura une moindre efficacité. Mais si on reste sur des matériaux extrudés, c'est-à-dire si on repeint la surface, si on met des voiles de verre sur la surface ou un papier peint extrudé...
Je garde l'efficacité.
On gardera l'efficacité thermique, bien évidemment. Voilà.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler peinture et papier peint aujourd'hui sur Europe 1.
Merci
pour votre accueil.
Il est 13h36.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, elle est toute jeune, mais vous allez voir, elle révolutionne le monde de la mode et du textile. EVK et ses mannequins robots et l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, c'est EVK. Bonjour Audrey Lorbergenthal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de cette entreprise de robots mannequins pour l'industrie textile et la mode. Racontez-moi comment vous est venue, il y a quand même quelques années déjà, l'idée d'EVK. Je crois que tout part d'une conversation avec votre mère qui a du mal à trouver des vêtements qui lui vont bien.
Oui, c'était il y a 14 ans, il faut que j'actualise à chaque fois qu'il passe un anniversaire. Donc, c'est le cas il y a quelques semaines. Donc, oui, c'est un chemin très long et une idée ancrée comme une obsession depuis 14 ans. De ne pas comprendre, en fait, pourquoi l'industrie du vêtement, à une échelle industrielle, avec les outils qu'on a aujourd'hui, n'intègre pas la diversité des corps, du plus standard au plus atypique, et comment on peut réduire ces millions d'invendus alors qu'on sait produire des vêtements, donc pourquoi pas les produire en taillant mieux. Et c'était d'abord effectivement pour ma mère que je trouve très très belle et je ne comprenais pas pourquoi ma mère ne trouvait pas de vêtements. Alors je me disais, si ma mère qui est belle, elle ne trouve pas, comment fait le reste des gens, voilà.
Donc vous vous dites, je vais créer quelque chose. Alors ça prend du temps, mais vous avez toujours l'idée qui est là. Vous faites un BTS de stylisme et de modélisme en alternance et pendant 5 ans, vous apprenez justement à produire les vêtements. Et alors, en parallèle, vous lancez aussi votre propre marque parce que vous voulez vous essayer au métier pour tout comprendre.
Oui. Ben moi, j'avais choisi d'abord un métier qui me plaisait beaucoup. Originellement, j'étais partie pour être avocate en propriété industrielle, droit des brevets.
Donc, rien à voir.
Rien à voir. Enfin, on faisait de l'innovation et je voyais des inventeurs toute la journée. Et j'allais partir aux États-Unis faire mon troisième cycle dans une grande université américaine. Donc, j'étais promis un avenir assez brillant. Assez facile, assez tracé. Donc, faire ce choix, il fallait quand même le baliser.
Et puis, papa-maman disait, entrepreneur, c'est compliqué.
C'est compliqué pour une femme. Ouais. J'avais un papa entrepreneur et une maman à son compte, donc assez indépendant, qui m'ont donné le goût de l'indépendance. Maintenant, on sait que le chemin est difficile et ça paraissait encore plus difficile pour une femme, d'après mes parents. Et je pense que malgré tout, ils n'ont pas eu tort. Je les trouvais un peu rétrogrades, mais en fait, ils étaient assez réalistes. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est minimiser mon risque avant de minimiser le risque des gens que j'ai fait rentrer après, par la suite, dans l'aventure, que ce soit des investisseurs ou des salariés. Et j'ai voulu savoir s'il y avait une vraie utilité. Si je comprenais bien ce métier, j'aurais une innovation dans le médical, sachant que je tombe dans les pommes à la vue du sang. Globalement, j'y serais pas allée.
Bon, il y a des banques qui vous ont suivi. Vous réalisez votre premier prototype en 2017. Vous faites vos premières embauches, aussi 5 personnes. Ça va très vite ensuite, hein, parce qu'en 13 mois, vous êtes 45.
Oui.
Entre-temps, bah, y a Emineo qui naît, le robot. Il passe, lui, de la taille 36 à la taille 46. Comment il fait pour évoluer et pour faire évoluer, justement, les vêtements?
Alors, ce qui est très simple au visuel, quand on commande le logiciel et le robot, en fait, est très
compliqué.
Et on
le voit hein, sur europe1.fr même temps.
Ok, donc en fait c'est très simple, on rentre les mesures d'une personne ou d'un vêtement ou on scanne une personne et le robot prend instantanément les mesures sur les axes clés de construction du vêtement en quelques secondes. Nous, on a bien respecté les usages métiers parce qu'il y a une façon dont le corps se déploie et qu'on a besoin de voir quand on est praticien. Et ça, il le retrouve, c'est le succès du produit et qui fait qu'on parle aux plus grandes marques. Par contre, à l'intérieur, c'est extrêmement complexe, c'est comme une voiture. On a des milliers de composants, on a du câblage en canne, on est sur un outil industriel qui dure 5 ans. Et c'est une prouesse technologique parce que faire du tout petit et du très solide et du très rapide, c'est ça aujourd'hui le défi de la mécatronique en France.
Que dit notre coach qui est manifestement impressionné par le robot mannequin?
Ah oui, c'est assez marrant de le voir changer de taille. Alors, vous en avez distribué combien aujourd'hui des robots? C'est uniquement pour les professionnels. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on va s'acheter pour se mettre dans son salon, sauf si c'est pour rigoler.
Sauf
et
si
de
vous
voir
faites un peu de couture
de
temps en temps.
Je sais pas
mais...
combien, 36 à 46 ou 34
Alors, nous, on a fait un premier round de tests avec deux clients qui sont plus des partenaires que sont la maison Chanel et Adidas. Donc, on en a entre 10 et 20 qui circulent aujourd'hui. Et il nous fallait stabiliser le produit. C'est aussi ça, le charme de l'industrie, c'est que ça coûte cher et ça prend du temps, mais on fait des merveilles en France. Et si on prend le temps de bien faire les choses, on sait sortir des produits uniques au monde. Et aujourd'hui, on accélère avec des nouveaux clients. Donc, on vise.
Et avec une troisième levée de fonds aussi.
Et une troisième levée de fonds, effectivement. Donc là, on vise une centaine d'unités d'ici l'année prochaine, parce qu'on avait un gros pipe. Nous, on a suscité, en fait, l'intérêt des grandes marques du textile, du luxe à la fast fashion en France, en Europe. Et on est en train d'ouvrir aux États-Unis. Et donc, il fallait traiter ça assez calmement et de façon raisonnable. Et donc, on a fait France-Europe et puis on part aux États-Unis. Et puis, en 2021, ce sera la Chine.
Avec une ambition assez claire, c'est que chacun puisse presque porter du sur-mesure, finalement.
Oui, alors chaque marque va le faire différemment. Mais évidemment, le luxe va encore plus pousser l'expérience client du sur-mesure. Le prêt-à-porter ou la fast fashion, ce dont on discute, c'est déjà d'aller réduire les invendus parce qu'il y a 460 millions d'invendus par an. Généralement, parce que les produits taillent mal et c'est dans les petites pièces ou dans les petites et grandes tailles parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Donc déjà, aller agir en priorité sur ce problème des petites et grandes tailles qui restent sur les bras et qui ne sont pas adaptées au marché. Et dans un temps d'eux, notre outil permet de faire des différences de morphologie en fonction de l'âge ou de l'origine géographique, donc Caucase, Asie et bientôt d'autres morphologies. Et donc après, d'aller cibler au plus près par tranche d'âge ou par marché. Ça, c'est l'étape 2.
C'est EVK, les robots mannequins. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Ils sont dans la précarité, vous voulez les aider, vous pouvez faire quelque chose pour eux. La solution, c'est Linked Out de R Entourage qui propose de rendre leur CV viraux dans vos réseaux. A tout de suite.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, vous êtes avec Raphaël Duchemin et la solution dans La France Bouge.
Faire profiter votre réseau professionnel à ceux qui sont dans la précarité, faire profiter de votre réseau professionnel à ceux qui sont dans la précarité, j'avais oublié un mot. L'appli Linked Out vous le permet, c'est la solution Elisabeth.
Mais
aujourd'hui.
Oui, parce que quand on sort du système, et ça peut arriver à tout le monde, c'est très difficile de se réinsérer. Pour les personnes SDF, se réinsérer dans la société, ça passe par plusieurs étapes. C'est trouver un logement, c'est manger, c'est être présentable. Et pour arriver à tout cela, il faut d'abord gagner de l'argent et ça passe par un emploi. À l'heure actuelle, on le voit avec les réseaux sociaux, c'est plus simple d'entrer en contact, sauf que ces personnes qui sont dans la précarité, elles n'ont pas toujours ces réseaux à leur disposition. C'est pour ça que Linked Out existe. Bonjour Jean-Marc Potvin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Entourage. Alors Entourage, c'est une association, c'est votre association qui depuis maintenant 3 ans permet à ceux qui le souhaitent de tendre la main aux SDF et d'agir en faveur de leur réinsertion. Et là, vous mettez le focus sur l'emploi, avec cette application, tout a démarré parce que vous avez fait un test, hein, je crois, il y a quelques mois, en novembre, sur votre compte Facebook.
Oui, le 22 novembre, j'ai posté le CV de Kenny, qui est un gars qui est en train de sortir de la rue. En fait, là, maintenant, il a un appart.
Grâce à
depuis
vous.
Depuis pas très longtemps. Et il y a eu 200 partages sur son CV. Et
sur votre compte.
Oui, sur mon compte perso. Et un coup de téléphone de quelqu'un qui connaissait quelqu'un et qui m'a dit, est-ce que pour tel boulot, vous pourriez le recommander? Je dis oui, je connais bien Kenny et je pense que ça irait bien pour lui. Et le 11 janvier, il démarre un CDI et il est toujours en poste aujourd'hui.
Il a trouvé quoi?
Là, c'est dans une petite société qui s'appelle Vélissimé, qui livre des plateaux repas dans les entreprises. Donc à la fois, il livre ses plateaux repas avec un vélo et puis à la fois, il vend les plateaux et ça lui va très très bien. Quoi. C'est un job qui est en même temps un peu en extérieur, qui a besoin de parler, ça correspond à sa personnalité.
Il ne l'aurait pas trouvé sans cela et c'est pour ça que vous avez créé Linked Out.
En fait, au sein d'Entourage, au sein de la gouvernance même d'Entourage, on travaille avec des personnes sans-abri qui ont aidé à construire tout le système et tout le réseau social d'Entourage.
Vous étiez venu nous en parler.
On était venu en parler ici, tout à fait. Et merci d'en parler, Raphaël. Et en fait, ces personnes, on s'est rendu compte qu'elles avaient du talent, elles ont parfois de l'expérience, y compris de l'expérience professionnelle. Et il y a une immense injustice, c'est qu'elles n'ont pas de réseau. Et aujourd'hui, pour trouver du travail, vous avez besoin d'un réseau pour relire votre CV, pour vous recommander, pour vous donner des idées de job, pour
Donc on sert de garantie si on veut ouvrir notre réseau à ces personnes.
Mais en fait, toute la lutte pour la réinclusion de ces personnes-là, donc pour les réinclure socialement, évidemment ça passe aussi par l'inclusion économique, les deux sont liés et j'ai besoin d'un réseau pour trouver un job et j'ai besoin d'un job pour me refaire du réseau aussi, parce que c'est un lieu de reconstruction, de restauration des relations humaines.
Alors, c'est un peu comme pour LinkedIn, hein, on peut les citer, puisque vous vous appelez LinkedOut. Chacun crée son profil et met en ligne son CV.
Voilà, c'est donc en fait, comme on est vraiment dans cette optique de réseau de gens avec et sans abri à proximité, en fait, il y a des couples qui se forment. Donc, nous, on a ce qu'on appelle des coachs bénévoles qui vont accompagner une personne SDF qui est dans une situation de recherche et qui objectivement, est prête à travailler. Et voilà, et on va aider ce coach bénévole va aider à retravailler le CV, va motiver la personne, peut-être l'orienter un petit peu sur ses différents choix, et va continuer de l'accompagner après la piste de poste. Donc c'est un parcours, c'est pas juste une plateforme. Il y a un parcours d'accompagnement qui, encore une fois, est basé sur le réseau. Et derrière, on va ouvrir les réseaux des voisins pour donner de l'audience à ce CV et donner une chance à ce que ce CV soit vu. Donc, c'est vraiment le cœur de l'esprit de LinkedOut. Voilà, on est le réseau pro des exclus, quelque part.
Que dit le coach, Frédéric Mazella ?
Alors, je me dis, mais c'est le réseau, ça marche effectivement, mais quand c'est une recommandation, et pour recommander quelqu'un, il faut effectivement le connaître. Alors, quel est le lien entre les coachs et les gens qui peuvent relayer et donner une audience au CV ? Parce que c'est assez difficile déjà, toujours dans l'absolu, de recommander quelqu'un, même quand on le connaît. Donc, aller recommander quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est évidemment encore plus dur. Donc, comment on passe du coach à la recommandation faisable, facile, qui ne soit pas juste une publicité, qui n'a pas de lien profond.
C'est une remarque qui est hyper pertinente parce que tout le cœur de ce qu'on dit chez Entourage, c'est la force du réseau et de créer du lien durable entre les personnes. Donc en fait, pour recommander quelqu'un, dans l'histoire de Kenny dont je parlais tout à l'heure, moi je connais Kenny depuis 2 ans maintenant. Et du coup, je peux le recommander et je peux bien comprendre son besoin, on s'est fait confiance. Et du coup, c'est la continuité logique de ce qu'on fait avec Entourage. Avec Entourage, on dit créer du lien. Et une fois que j'ai créé du lien avec mon voisin et
avez donné les outils.
Et que je le connais, on se fait confiance parce qu'on se connaît. Et là maintenant, on vient outiller ça, ce qui permet d'aller une étape plus loin et qui est d'utiliser quelque part ce lien durable qui a été créé entre voisins pour interconnecter nos réseaux. Et en fait, chacun d'entre nous, on a des réseaux de sociabilité, un réseau d'anciens d'école, d'entreprises, de voisinage, d'associatifs. Et si je viens ouvrir un de ces réseaux, qui est mon réseau pro, à cette personne que je connais, je lui donne beaucoup de chance. Donc en fait, c'est toute cette bascule entre le lien concret chez Entourage et le lien durable que va permettre ce travail avec LinkedOut.
Et ça vient de démarrer. On vous invite évidemment à aller vous inscrire et à aller aider à rendre visibles effectivement ces CV, à les rendre viraux sur vos réseaux sociaux. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Merci à Frédéric qui était notre coach. Merci pour cette saison d'ailleurs. Et puis on se dit à demain.
On se dit à demain en direct.
Et nous parlerons militaire demain.